Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre tchèque regrette la démission du gouvernement slovaque. Le déficit public devrait être ramené en dessous de 4% du produit intérieur brut en fin d'année. Et puis enfin, selon le gouvernement, l'égalité des chances dans le système éducatif est la clé de l'intégration des Roms. La chute de la coalition gouvernementale dirigée par Iveta Radičová n'est pas, je cite, une bonne nouvelle. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le Premier ministre tchèque Petr Nečas, qui a rappelé que la République tchèque entretenait des relations proches et amicales avec le gouvernement slovaque. L'annonce de la démission d'Iveta Radičová a fait suite au vote négatif mardi du Parlement slovaque sur la ratification du texte prévoyant le renforcement du Fonds européen de stabilité financière. Toutefois, le Parti social-démocrate tchèque estime qu'il est très probable que le Parlement slovaque ratifie finalement le plan qui renforce les prérogatives du Fonds européen de stabilité financière afin de lutter contre la crise de la dette dans la zone euro et en premier lieu en Grèce lourdement endettée. Mercredi, les partis démissionnaires du gouvernement slovaque se sont entendus avec le principal parti d'opposition sur la tenue d'un second vote qui cette fois devrait aboutir à la ratification du texte. Ce vote devrait avoir lieu jeudi. Le montant du déficit des finances publiques devrait se situer cette année en dessous de 4% du produit intérieur brut. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, à l'issue de la réunion de la commission parlementaire chargée du budget de l'État. Au printemps dernier, le ministère avait annoncé un déficit ramené à 4,2% du PIB, soit déjà une première réduction par rapport aux 4,6% prévus lors de l'adoption du budget en fin d'année dernière. Ce mercredi, Miroslav Kalousek s'est dit convaincu que le résultat final commencerait, je cite, par le chiffre 3 pour 2011. Rappelons que le gouvernement prévoit un déficit d'un montant de 135 milliards de couronnes, soit 5 milliards 400 millions d'euros. En 2013, le gouvernement entend le ramener en dessous du seuil des 3% fixé par les critères de Maastricht. L'intégration et la participation des enfants à des activités et des programmes éducatifs de bonne qualité, tel est selon le gouvernement l'élément clé pour l'amélioration à l'avenir de la situation de la minorité rome en République tchèque. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas suite à la réunion consacrée à l'étude du rapport sur la situation des Roms en 2010. Ce rapport constate notamment qu'une majorité de la population rome se trouve en situation d'exclusion sociale depuis de nombreuses années. La République tchèque est critiquée en raison de la scolarisation importante d'enfants roms dans des écoles dites spéciales, c'est-à-dire destinées aux élèves possédant un léger retard mental. Le gouvernement affirme également vouloir améliorer les chances des roms d'obtenir un emploi et mettre en avant les exemples positifs d'intégration dans la société majoritairement non-rome. L'ambassadeur de la République tchèque en Libye, Josef Kautsky, effectuera son retour à Tripolis ce jeudi. Sa sécurité sera assurée par la brigade d'intervention rapide. Toutefois, l'ambassade ne reprendra une activité normale que progressivement. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la République tchèque octroierait une aide humanitaire d'un montant de 4 millions de couronnes à la Libye, et ce, sous forme notamment de matériel de santé. Josef Kautsky avait été rappelé à Prague en février dernier, suite au début des combats qui ont abouti à la chute du régime de Muammar Kadhafi. Le 29 août dernier, la République tchèque a reconnu le Conseil national de transition comme seul représentant légitime du peuple libyen. Le nombre d'enfants présentant une dentition sans aucune carie non soignée augmente en République tchèque. En 2010, la moitié des garçons et filles âgées de 5 ans possédaient une dentition parfaite. En 2003, leur nombre s'élevait encore seulement à 40%. Toutefois, un tiers environ des enfants en âge préscolaire ont une dentition dans un très mauvais état avec au moins 7 des 20 dents cariées non soignées. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par la faculté de médecine de l'université Charles à Hradec-Králové. On passe au sport. En tennis, le duel tchéco-tchèque opposant les partenaires habituels de Coupe Davis, Tomáš Berdych et Radek Štěpánek, au deuxième tour du tournoi de Shanghai, un Masters 1000, a été remporté par Tomáš Berdych ce mercredi. Le numéro 1 tchèque, 7e mondial, s'est imposé aux dépens de Štěpánek, 24e mondial, en 2-7, 6-4, 6-3. Cette victoire permet à Tomáš Berdych de se rapprocher encore un peu plus d'une qualification pour le Masters de Londres, tournoi qui réunit chaque fin de saison les 8 meilleurs joueurs mondiaux. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi très nuageuse et pluvieuse. Le soleil est de retour, notamment sur une grande moitié ouest du pays. Jeudi, jour de la fête des Renata, le ciel reste couvert dans l'est de la Moravie. Les températures sont stables et varient entre 8 et 12 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Václav Richter pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Le Parlement slovaque a rejeté le renforcement du Fonds européen de stabilité financière et a provoqué la chute du cabinet du Premier ministre Iveta Radičová. Les réactions tchèques à cet événement ne se sont pas fait attendre. Les hommes politiques tchèques ont également réagi à la décision d'un tribunal de Kiev ayant condamné l'ancien Premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko à 7 ans de prison. L'équipe de République tchèque de football s'est imposée 4-1 face à la Lituanie lors d'un des matchs de qualification pour l'Euro 2012. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission, émission en langue française de Radio Prague. Vous êtes tous invités à l'écoute. Mardi soir, le Parlement slovaque a rejeté le renforcement du Fonds européen de stabilité financière qui devait débloquer un nouveau prêt pour la Grèce endettée, le plan ayant été soutenu par 55 élus sur l'ensemble de 124 députés présents. Par ce non qui a confirmé un conflit au sein de la coalition gouvernementale, les députés slovaques ont également mis hors jeu le Premier ministre libéral Iveta Radičová, ayant associé ce vote crucial à un vote de confiance pour son cabinet. D'après les économistes tchèques, la Slovaquie a prononcé à haute voix une opinion qui n'est pas minoritaire au sein de l'Union européenne. Les médias, eux, déplorent la chute du gouvernement menée par une femme intelligente et honnête. Magdalena Hrozinková.
En décortiquant les derniers événements survenus à Bratislava, les journalistes tchèques parlent de suicide du Premier ministre Iveta Radičová, du non-slovaque qui ne résout rien, ou encore du grand comeback de Robert Fico, ancien Premier ministre et chef de l'opposition social-démocrate. Pour beaucoup, c'est justement ce juriste et ancien communiste qui sort vainqueur de ce vote. C'est grâce aux voix de ses députés que le mécanisme de sauvetage financier sera fort probablement adopté lors d'un second vote au Parlement slovaque. On écoute le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek.
Personnellement, j'estime que la question du fonds du sauvetage européen a servi de prétexte pour résoudre des problèmes de politique intérieure en Slovaquie. Je pense que le renforcement du fonds sera approuvé par la représentation politique dans un très court délai, quand un nouveau gouvernement sera formé au prix d'un compromis dont bénéficiera le parti de Robert Fico.
Depuis juillet 2010, Iveta Radičová du parti SDKUDS, Union démocrate et chrétienne slovaque, parti démocrate, aura donc été en tête d'une coalition quadripartite de centre-droit très fragile et fortement divisée ces dernières semaines par la question du fonds du sauvetage européen. Iveta Radičová, candidate à la présidence de la République en 2009 et première femme dans l'histoire du pays à diriger le gouvernement, une femme parmi les loups, comme l'écrit Martin L. dans les pages du quotidien Hospodarstvo. Selon lui, en mettant en jeu l'avenir de son gouvernement à ce moment crucial, Radičová, plus appréciée à l'étranger que dans son pays, a manifesté sa fidélité aux valeurs morales en politique. Toujours dans le journal économique Hospodarské noviny, Julie Hrstková constate que la zone euro ne s'effondrera pas après le non slovaque. Sur le plateau de la télévision tchèque, l'économiste Pavel Nesef a plutôt défendu la position de la Slovaquie vis-à-vis de l'augmentation de l'aide européenne aux pays en difficulté financière, position qui n'est pas isolée.
Je me réjouis du fait qu'il existe une polarité d'opinion. Un petit pays d'Europe a osé exprimer son avis, c'est tout. On oublie qu'en Allemagne, par exemple, ce débat s'est terminé par une plainte portée auprès du tribunal constitutionnel. Il serait faux de penser que toute l'Europe a salué le renforcement du fonds de sauvetage européen et qu'il n'y a que la Slovaquie qui crée des problèmes.
Ce mercredi, la chancelière allemande Angela Merkel a assuré que le renforcement du fonds de secours financier de la zone euro sera bien ratifié d'ici à la fin du mois d'octobre. Cette question sera à l'ordre du jour d'un sommet européen prévu pour le 23 octobre prochain.
L'ancien premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko a été condamné mardi par un tribunal de Kiev à 7 ans de prison. L'Union européenne a vivement protesté contre ce verdict attendu et côté tchèque aussi, on observe la situation avec gravité à Nakubishta.
7 ans de prison et 150 millions d'euros d'amende, tel est le verdict du tribunal de Kiev contre Yulia Tymoshenko, autrefois leader de la révolution orange aux côtés de l'actuel président Viktor Yanukovych, dont elle est désormais l'opposante. Pour le politologue tchèque Petr Kratochvil, ce verdict est avant tout le résultat de luttes politiques internes entre ces deux camps.
Je pense que ce verdict n'est pas surprenant. On pouvait s'attendre à cela. La pression politique exercée par le bureau présidentiel et le président lui-même a été très forte. Cela allait dans le sens d'une condamnation de Yulia Tymoshenko. À l'origine, il y a un affrontement politique interne. Je ne veux pas dire que Yulia Tymoshenko est innocente du point de vue du droit, mais le président a profité de l'affaire pour se débarrasser de sa plus grande opposante.
Yulia Tymoshenko a été jugée coupable d'avoir abusé de ses pouvoirs de premier ministre en 2009 lors de la signature de contrats gaziers avec la Russie. Tout au long du procès entamé le 24 juin, Tymoshenko a dénoncé une procédure politique, a prévenu qu'elle contesterait le jugement devant la justice européenne et a appelé à lutter contre l'autoritarisme en Ukraine. Côté européen, justement, on condamne fermement ce verdict. L'Union européenne s'est dite profondément déçue et a menacé de conséquences importantes. Karel Schwarzenberg, chef de la diplomatie tchèque, à la sortie d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
Évidemment que cela va avoir des conséquences, car l'accord d'association UE-Ukraine en cours de négociation va se heurter ensuite au jugement du Parlement européen.
Selon Karel Schwarzenberg, la condamnation de Tymoshenko risque donc d'envenimer les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine. Dans un communiqué, la diplomatie tchèque a souligné encore que l'Ukraine s'éloignait des standards européens. Je cite, cette démarche, bien qu'elle soit entérinée par un tribunal, met clairement en lumière les différences de compréhension de la justice et de la différence entre responsabilité pénale et politique entre l'Union européenne et l'Ukraine. Elle dévoile une dichotomie entre leur culture du droit. La République tchèque ne peut reconnaître un verdict qui pourrait utiliser le principe du quid bono en combat politique sur la base d'une législation imparfaite et désuète. Tels sont encore les mots du communiqué du palais Tchernine. Autre réaction dans la classe politique et intellectuelle tchèque, l'ancien président tchèque et dramaturge, ancien opposant au régime communiste, Václav Havel, espère que les tribunaux d'instance supérieure se pencheront sur une éventuelle motivation politique de ce verdict.
L'équipe de République tchèque de football participera finalement bien au barrage qualificatif pour le championnat d'Europe 2012. Très critiquée après leur humiliante défaite concédée devant leur public contre l'Espagne vendredi dernier, les hommes du sélectionneur Michal Bilek, comme transfigurés, ont réagi en s'imposant nettement 4-1 en Lituanie mardi soir pour leur dernier match de groupe. Une note de Jean-Sébastien Letang.
Cette victoire permet aux footballeurs tchèques de continuer à croire en leur chance de qualification pour la phase finale de l'Euro qui se tiendra en Pologne et en Ukraine en juin prochain. À Kaunas, bien que disputé contre une Lituanie qui n'avait plus que son honneur à défendre, le match était pourtant loin d'être gagné avant le coup d'envoi, puisque les Tchèques ont dû faire face au forfait de dernière minute de leur capitaine et meneur de jeu Tomáš Rosický. Un coup dur auquel s'est ajouté l'expulsion du défenseur central Michal Hubnik en milieu de deuxième mi-temps. Mais à ce moment-là du match, l'affaire était déjà pliée, puisque les partenaires de Petr Čech menaient déjà 3-0, un avantage acquis en première période. Un but rapide, inscrit dès la deuxième minute sur penalty par Michal Kadles, avait rapidement mis les hommes de Michal Bilek en confiance. Cette avance, au tableau d'affichage, a ensuite été confortée avant le repos par deux autres buts de Jan Rezek, associé en attaque à Milan Baroš. Cette victoire, logiquement gérée dans une deuxième mi-temps marquée par un pénalty de chaque côté, comité à la défaite prévisible de l'Écosse en Espagne 3-1, permet donc à la République tchèque de terminer à la deuxième place de son groupe, l'objectif qu'elle s'était fixé en début des éliminatoires. Ce classement final lui offre le droit de participer au barrage, disputé sous forme de match aller et retour à la mi-novembre prochain. Tomáš Rosický, capitaine de l'équipe, s'exprime.
Les
Espagnols étaient un trop gros morceau pour nous. On n'avait tout simplement pas les capacités pour les concurrencer, mais nous ne sommes pas faibles pour autant. Ça ira, même si parfois on doit travailler dans une atmosphère délétère. Mais nous n'allons pas pavoiser, on verra seulement après les matchs de barrage.
La qualification pour l'Euro n'est donc pas encore acquise, mais les joueurs tchèques comme Michal Hubnik y croient.
Nous avons montré ce soir que nous savions jouer sous pression et nous avons toujours réussi les matchs importants. Maintenant, nous espérons bien aborder les deux matchs de barrage et nous qualifier pour l'Euro.
Pour ces barrages, la République tchèque fait partie des quatre équipes tête de série. Le tirage au sort, qui sera effectué ce jeudi à Cracovie, lui désignera donc la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro ou l'Estonie comme adversaires.
C'est donc avec cette page sportive que se referme la première partie de notre émission. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Depuis déjà 121 ans, une course d'obstacles de légende, le grand steeplechase de Pardubice, démarre le deuxième dimanche d'octobre dans la ville de Pardubice en Bohême orientale, l'occasion de revenir sur la longue histoire d'une course hippique parmi les plus difficiles d'Europe qui s'est disputée pour la première fois en 1874. Histoire émaillée de performances incroyables, comme celle de Josef Vania qui a décroché dimanche dernier sa 8e victoire, comme aussi parfois d'accidents et de péripéties. Jarka Gisiblova.
Chapitre de l'histoire.
La tradition du grand steeplechase de Pardubice Velka Pardubicka remonte au début du 19e siècle. La chausse à cour est à l'origine de la course. Très populaire en Angleterre, elle se propage en Bohême. En 1836, Octavian Kinski l'organise dans son domaine de Chlumec. Plus tard, l'activité est déménagée à Pardubice à l'initiative du comte František Liechtenstein. À l'instar du grand national de Liverpool organisé en 1836, il est décidé de construire un parcours en Bohême. Ses fondateurs désirent toutefois un autre type d'obstacle que ceux que l'on trouvait en Angleterre, et c'est ainsi qu'un parcours particulièrement exigeant est installé à Pardubice en 1856. La toute première édition de la Velka Pardubicka se dispute le 5 novembre 1874 et la victoire est remportée par un cheval né en France, Fantôme. C'est ce que raconte Martine Chabata de l'Association pour la course de Pardubice en nous présentant de plus près le parcours.
To celé závodiště má rozlohu 56 hectares.
Le parcours du grand steeplechase de Pardubice est long de 6900 mètres et jalonné de 30 à un obstacle. La surface du champ de course est de 56 hectares. À titre de comparaison, la superficie de l'État de la Cité du Vatican est de 44 hectares. Les chevaux courent pendant environ 10 minutes. Au fil du temps, la piste a été plusieurs fois modifiée, dernièrement en 1998 en rapport avec l'édification de nouvelles tribunes. La tribune B en béton est l'une des constructions d'origine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des troupes d'occupation allemande fuyant Pardubice ont placé à l'intérieur de cette tribune des explosifs, mais leur départ rapide de la ville et une intervention de patriotes de Pardubice ont sauvé la tribune d'une explosion et d'une destruction certaine.
Parlons des invités étrangers les plus prestigieux qui ont visité l'hippodrome de Pardubice. Martine Chabata évoque notamment deux d'entre eux.
Z významných návštěv, které navštívili pardubické závodiště,
la princesse royale britannique Anne, qui est venue le 14 octobre 2007 pour une courte visite et qui s'est rendue également dans le haras national de Kladruby, près de Pardubice. En 1974, 2001 et 2004, c'était l'écrivain Dick Francis, accompagné de la traductrice tchèque de ses ouvrages, la sénatrice Jaroslava Mozerova. Si la première visite de l'écrivain est passée presque inaperçue, un accueil tout particulièrement chaleureux lui a été réservé au printemps 2001, lorsqu'il a dédicacé à Pardubice l'un de ses romans, et à cette occasion, une rencontre de Dick Francis avec Václav Havel a eu lieu à la mairie de Pardubice.
Les noms de tous les vainqueurs, chevaux et jockeys du Grand Steeplechase de Pardubice depuis la première édition jusqu'à présent sont gravés sur trois plaques en marbre accrochées au mur de la tribune centrale. La liste débute avec le nom du premier vainqueur historique, le cheval français Fantôme, monté par George Sayers. Autre fait historique, en 1937, c'est une femme, la comtesse Lata Brandisova, qui remporte la course pour la première unique fois dans l'histoire. En 1947, un nouveau record sur une piste ayant subi des aménagements après-guerre est établi par le jockey Buret sur Rayon de Lune, tous les devenus de France. Un chapitre à part, l'ère des années 1950, observe Martine Chabata.
Vladimir Hejmovský, který zvítězil v roce 1951,
Vladimir Hejmovský, vainqueur de l'édition 1951 de son vrai nom Gejmovský, était un noble polonais et officier de la garde blanche engagé dans la lutte contre le nouvel État soviétique. Peu après avoir gagné la course, il est devenu victime d'un assassinat organisé par la STB. En 1954, le Grand Steeplechase est remporté par Ferdinand Paliza et la victoire le sauve paradoxalement d'un emprisonnement. Car en cette année-là, qui est celle de la réforme monétaire opérée par le régime communiste, le président Antonín Zápotocký arrive à Pardubice et remet à Ferdinand Paliza une montre en or pour le récompenser de la victoire. Or, entre-temps, un mandat d'arrêt est délivré contre Paliza, fils d'un koulak opposé à la collectivisation de la campagne. Grâce à la victoire à Pardubice, le verdict est atténué. Paliza est condamné à payer une amende de 10 000 couronnes et échappe à la prison.
L'année 1957 marque le début d'une longue ère d'excellents chevaux et jockeys russes, ère qui dure presque sans interruption jusqu'en 1967. En 1968, le Grand Steeplechase de Pardubice n'est pas organisé en raison de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie. Dans toute son histoire, la course n'a pas eu lieu en 1876, en 1908 à cause des intempéries pendant les deux guerres mondiales et puis justement en 1968 alors qu'une délégation de sénateurs américains dont Ronald Reagan était attendue à Pardubice ainsi que le raconte Martine Chabata. En 1969, la course est remportée par Václav Chaloupka qui réitérera trois fois encore son triomphe. Une autre victoire marquante est celle du Britannique Chris Collins qui établira en 1973 un nouveau record avec son cheval Steven Society. En 2001 débute l'ère de l'inoubliable jockey allemand Peter Gem.
Jemu se jako jedinému podařilo, že zvítězil čtyřikrát za sebou. To žádný jiný jezdec.
C'est le seul jockey qui a réussi à remporter quatre victoires consécutives dans l'histoire de l'épreuve. Aucun autre coureur avant et après lui n'y est encore parvenu. Son compatriote Dirk Fuhrmann décroche le titre de champion en 2005. Suivent deux victoires de la jument Sixtine et l'année 2009 marque le début d'une série de victoires du fameux Josef Váňa.
Era jockey Josefa Váňi.
Josef Váňa, qui a une statue sur le champ de la course déjà de son vivant, est un recordman qui a gagné 8 fois le Grand Steeplechase de Pardubice, 4 fois montant Železnik, 3 fois Tiumen et 1 fois Vronsky. L'obstacle le plus redouté de la Velká Pardubická porte le numéro 4 et appelé Tronchet Taxis, d'après le prince Egon Turn Taxis, qui se trouvait à l'origine de la course et qui faisait partie des défenseurs de cet obstacle. Étant l'un des plus difficiles au monde, cet obstacle a souvent fait l'objet de critiques des défenseurs de la cause animale, observe Martine Chabata.
Ty protesty začaly kolem roku 92.
Brigitte Bardot se trouvait derrière les protestations qui ont commencé en 1992 et qui ont été financées et dirigées de l'extérieur par les soi-disant défenseurs de la cause animale. Le plus déplorable dans cette affaire est que la même année, 1992, Patrick Martel arrive à Pardubice. Comme on le sait, Martel Cognac était l'un des sponsors du Grand National de Liverpool et M. Martel envisageait d'inclure dans la série le Grand Steeplechase de Pardubice, mais ce qu'il a vu sur le champ de course l'a complètement découragé.
Suite aux protestations, des modifications de la tranchée taxi ont été faites, notamment pour ce qui est la hauteur de la haie naturelle derrière laquelle se cache un fossé aujourd'hui moins profond qu'à l'origine.
Problème taxisova příkopu nebyl vlastní příkop.
Le problème de la tranchée taxis ne résidait pas dans l'existence d'une tranchée, mais plutôt dans la hauteur d'une haie vive derrière laquelle se trouve le fossé. Historiquement, la haie avait entre 140 et 150 cm de haut. Au fil du temps, les branches ont poussé plus haut sans qu'on les découpe comme il le fallait. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, la haie a dépassé de 20 cm la hauteur d'origine. Et c'est cela, la hauteur de la haie, qui a créé des problèmes aux chevaux.
Dans le passé, la tranchée taxis a été la cause de la plupart des 28 accidents mortels de chevaux qui restent les héros tragiques de l'événement. D'autres obstacles les plus redoutés comme le bon irlandais, la grande tranchée d'eau ou le Saudi français ont eux aussi été modifiés au profit de la sécurité et au détriment de l'exigence de la course, comme le souligne encore notre guide. En dépit des changements, le grand steeplechase de Pardubice reste un événement sportif et mondain par excellence. Durant les 121 ans d'existence de la course, pas moins de 92 noms de chevaux et 82 noms de jockeys ont été inscrits sur la liste des vainqueurs.
Jirka Gisblova a évoqué pour vous l'histoire du grand steeplechase de Pardubice. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.